Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis de retour avec un épisode exclusif, car vous avez été nombreux à me demander de recevoir Fanny Auger, qui vous avait beaucoup inspiré lors du premier épisode de podcast que nous avons tourné ensemble. Alors, elle est de retour aujourd'hui pour nous partager une grande dose d'inspiration. Je lui ai demandé d'aborder particulièrement le sujet des entretiens et de la gestion du stress en général, car c'est une question que vous avez beaucoup demandé. Fanny nous dévoile ce qu'attendent réellement les recruteurs et nous partage ses meilleurs conseils sur l'attitude à adopter. On parle aussi de la peur et de pourquoi il faut en réalité être bienveillant envers elle et comment on peut réussir à la dompter. Avec Fanny, on parle aussi d'échecs, des étapes à suivre pour se relever, mais aussi de comment on peut apprendre à dépasser nos pensées limitantes pour adopter un état d'esprit beaucoup plus bénéfique. On termine par vous partager nos meilleurs outils pour aborder la rentrée sereinement et faire de cette année l'année de tous les succès. Si vous écoutez ce podcast mais que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Cela soutient beaucoup le podcast et vous permet de recevoir gratuitement les nouveaux épisodes. Merci beaucoup et je vous dis à tout de suite pour un nouvel épisode d'In Power.
Bonjour Louise.
Bienvenue de retour sur In Power. Tu es la première à revenir sur le podcast dû à la forte demande.
Merci, je suis très honorée en fait. Quand tu m'as appelée, ça m'a fait énormément plaisir parce que je dis souvent, moi j'ai deux passions dans la vie, c'est la culture et la transmission. Et c'est ce que je fais au quotidien avec mes différents projets, mes différentes entreprises. Et par notre entretien aussi finalement, c'est aussi la transmission. Et quand tu m'as dit que plein de gens t'avaient fait un retour en te disant qu'ils avaient trouvé un job, un stage, ou que ça leur avait aidé pour leur interview ou autre... ça pouvait pas me faire plus plaisir,
donc plaisir partagé.
Merci, je suis très honorée.
Parce que c'est vrai que toi, pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, tu es entrepreneur, auteur, speaker et comme j'aime à le dire aussi, maker. Et tu es aussi donc une excellente mentor parce que c'est vrai que tu as aidé beaucoup de gens à travers l'épisode qu'on a enregistré déjà ensemble et notamment à trouver un stage ou à réussir un entretien. Et du coup, je me suis dit que ce serait une bonne idée de commencer par cet angle-là pour cet épisode et que tu nous dises en fait pour toi quelles sont vraiment les erreurs peut-être à ne pas commettre dans un entretien.
La question du travail, c'est, je crois, une des questions principales qui nous touche beaucoup parce que quand on est aligné, le travail a une grande part de ce qu'on fait quand même. On passe beaucoup d'heures dans notre semaine au travail et si on n'a pas un travail qui nous plaît, c'est compliqué après. Je crois que c'est Confucius qui disait déjà « Trouve un job que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie ». Alors pour les entretiens, effectivement, je donne souvent des cours à ce sujet sur déjà comment trouver un job qu'on aime, identifier son potentiel professionnel, mais aussi comment faire la différence et réussir un entretien. Les erreurs à ne pas commettre. Je pense qu'une des erreurs à ne pas commettre, c'est ne pas être soi, en fait. Je pense qu'un entretien, il faut un peu banaliser la chose. Un entretien, c'est juste une conversation. C'est une conversation qui va permettre aux recruteurs de voir un peu qui vous êtes. Et malheureusement, il y a beaucoup de candidats qui se mettent dans un rôle, qui se mettent dans des étapes pas possibles. J'ai déjà eu des candidats qui étaient paralysés face à moi en entretien. Et en fait, c'est une conversation pour apprendre à se connaître, savoir qui est la personne en face de nous, quelles sont ses compétences et sa motivation, son énergie et ce qu'elle va pouvoir apporter à l'entreprise. Et on ne veut pas des discours trop faits parce qu'en fait, dites-vous que le recruteur, il en voit passer, mais tellement. Puis alors, normalement, il a fait ça depuis quelques temps quand même. Donc, que ce soit pour le poste que vous briguez ou alors pour d'autres postes, il en a vu passer tellement les discours parfaits, etc., qu'il en a marre et il veut juste rencontrer des gens et avoir une belle conversation. Moi, j'ai l'an dernier, mon livre qui a été publié sur l'art de la conversation qui s'appelle Trêve de bavardage, j'ai tout un chapitre justement sur la conversation au travail. Et en fait, on se rend compte que oui, un entretien, c'est une conversation balisée. On sait plus ou moins ce qu'on va vous demander, ce qu'il faut dire, etc. Mais c'est quand même une conversation. Et à partir du moment où on arrive à faire passer l'entretien dans une conversation, ben c'est gagné. Parce qu'on est d'égal à égal avec le recruteur. Il voit qu'on partage la même vision, les mêmes valeurs. Vous portez la même ambition, la même envie pour sa société. Et c'est ce qu'il veut voir. Mais il faut être soi-même, en fait. Et moi, j'aime bien, en entretien, déceler des gens différents, des gens parfaits, jeunes, intelligents, la tête bien faite. Il y en a beaucoup. Moi, ce que j'aime voir, c'est un peu les côtés adipeux. Qu'est-ce qu'elle va ramener de plus? J'aime pas trop les bénis oui-oui. La personne parfaite qui sort de la meilleure école, qui a toujours tout fait comme il fallait, etc. C'est sympathique, mais je me dis, qu'est-ce qu'elle va apporter en brainstorm créatif autour de la table, en fait? Par rapport à l'équipe, si tout le monde pense pareil, a été formé dans les mêmes écoles, pense la même chose, regarde ou écoute les mêmes émissions, où est la richesse, où est l'altérité, où est-ce que ma marque, elle va pouvoir être stretchée, où sont les gens qui vont un peu disrupter le truc en proposant, en amenant d'autres idées autour de la table, une autre manière de voir les choses. Et moi, j'ai tendance à aller justement vers ces, j'allais dire petit canard boiteux, mais c'est pas ça, c'est à ces personnalités qui vont vraiment donner du sens et la valeur ajoutée autour de la table à ma marque.
C'est vrai qu'en fait, tu as vraiment raison. Enfin, moi, j'imagine, si on se met à la place deux secondes en fait, de l'intervieweur ou de la personne qui peut passer l'entretien, ça doit être tellement chiant de voir toujours les mêmes discours et ça doit être tellement rafraîchissant de voir quelqu'un qui est juste soi-même. Et comme c'est déjà assez stressant en soi un entretien, se rajouter un stress en essayant de jouer un rôle pour l'avoir fait dans le passé, en fait, c'est jamais une réussite. Et c'est à partir du moment, comme tu dis, où on est soi-même, tu vois, tout en faisant attention à faire le mieux possible, tu vois, à donner le meilleur de soi, qu'il y a une vraie différence, en fait.
Ouais.
Et du coup, pour toi, j'allais te demander ce qui est un entretien réussi, mais j'ai l'impression que tu nous l'as déjà aussi un peu résumé à travers ce qu'il ne faut pas faire. En fait, un entretien réussi, c'est vraiment un entretien où on montre à la personne qui on est et ce qu'on va apporter peut-être en plus... à la boîte. Est-ce que tu penses qu'il faut quand même avoir une certaine assurance, peut-être, où se trouve la limite entre être à l'aise et être trop à l'aise?
Alors, je pense qu'il y a un gros enjeu de confiance en soi. Juste avant, une des choses aussi à ne pas faire en entretien, et ça c'est important, c'est que peut-être quand on est jeune, on envoie beaucoup de CV, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire ou quoi, puis on se dit, tiens, mon rêve c'est de bosser pour ma main, mais je vais garder des options ouvertes. Et j'ai vu des gens qui ne préparent pas l'entretien, donc qui vont venir à l'entretien sans connaître trop la boîte pour laquelle ils postulent, sans avoir vraiment consulté au moins le site internet. Moi je pense qu'un entretien, ça, c'est du boulot. Ça se prépare, c'est vrai, mais ça se prépare en s'intéressant vraiment à la boîte. Aujourd'hui, toutes les boîtes, elles ont leur charte, elles ont leurs valeurs, leur mission, leur mission statement qui est écrite sur leur site internet. Je conseille de vraiment faire ces recherches et se dire qu'est-ce que moi, ça représente pour moi. Si la marque vous dit, ben voilà, nos valeurs, c'est l'éthique, c'est l'audace, c'est la créativité, etc. Il ne s'agit pas de le ressortir texto en entretien, mais il s'agit de se dire par rapport à ça, où je me situe moi, est-ce que j'ai des questions, comment ça se traduit pour une marque très institutionnelle ou une marque beaucoup plus libre, et discutons-en. À la limite, c'est des magnifiques porte d'entrée aussi pour poursuivre l'entretien. Donc c'est le préparer un minimum. On passe pas un entretien à la BNP Paribas comme on passe un entretien dans un cabinet d'avocats ou dans une start-up, c'est sûr. Mais un entretien, ça se bosse. Et c'est pas tant soit ce qu'on va répondre, c'est vraiment connaître la boîte et son envie de bosser pour cette boîte. On répond pas à un truc par hasard normalement. Et c'est aller au bout du truc en se disant, tiens, à quoi ressemblent les gens. Aussi, quand on arrive à l'entretien d'embauche, moi, je regarde aussi beaucoup le candidat. Si jamais on doit traverser un open space où des gens travaillent, alors évidemment, il ne s'agit pas de déranger tout le monde. Mais j'aime bien que la personne, en général, dise, même du bout des lèvres, bonjour. Bonjour, même discrètement, même si personne l'entend, qu'elle sourit, parce que parfois j'ai des feedbacks des collaborateurs qui ont vu passer des gens et qui me disent « Oh, la petite jeune femme avec la robe rouge, elle avait l'air lumineuse !» Et c'est dingue d'avoir des feedbacks comme ça, parce que les gens y voient quand même. Je regarde aussi si la personne, à la fin de l'entretien, elle range sa tasse de café. Moi, j'aime bien les gens humbles. Et surtout quand on est jeune, forcément, ils sont là pour apprendre aussi, les candidats et les gens qui font un stage ou quoi. Mais j'aime bien l'humilité, quelqu'un qui ne va pas trop se la ramener non plus et qui veut apprendre. Donc, est-ce que la personne range sa chaise? Est-ce qu'elle m'aide à débarrasser sa tasse? La mettre dans l'évier? Je ne vais pas lui demander de faire la vaisselle, évidemment. mais voilà, c'est l'attention au détail. Est-ce qu'elle regarde autour d'elle? Il ne s'agit pas de s'extasier sur les bureaux, mais il s'agit aussi de regarder avec intérêt les collaborateurs qui travaillent ici. Encore une fois, un entretien et un job, c'est du donnant-donnant. Ce n'est pas « je fais l'esclave, prenez-moi s'il vous plaît, je suis capable de tout faire ». Non, ça ne va pas marcher. Mais c'est plus... voir si la personne, quand elle visite les bureaux et qu'elle vous rencontre, elle peut déjà se projeter quelque part en se disant « là, c'est un endroit où j'aimerais bien être ». Et ne pas s'arrêter aux côtés aussi, ça c'est un autre une autre grosse erreur que font les candidats, ne pas s'arrêter au côté glamour de la boîte. Alors, je pense que si on travaille pour une banque, un cabinet d'avocats, une société un petit peu stricte, on ne va pas tomber dans ce problème. Mais moi qui ai fait passer d'un entretien et recruté pendant des années pour une start-up très sympathique, ou pour d'autres, autrefois je travaillais dans la mode, donc là je travaillais pour Chanel, Valentino, Ralph Lauren, Tod's, mais en fait il y a ce côté un peu paillette. Et donc, il y a les gens qui viennent au premier degré en me disant oh, « J'adore, c'est génial. Pourquoi vous voulez travailler pour cette marque ou pour cette start-up ? Oh, ben, c'est trop bien, c'est beau, c'est génial. » Ça ne va pas très loin quand même. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est sympathique, certes, mais en fait, je me dis « Ok, qu'est-ce qu'elle va ramener la personne ?» Mais c'est vraiment s'intéresser à l'héritage, à ce que représente cette marque, c'est quoi la mission de cette marque et m'en dire davantage. Mais moi, quand une Benny Winnie oui qui me dit « Ça a l'air super, j'en rêve, j'adore !» Où est le sens critique ? Où est l'audace ? Où est le recul là-dessus ? Et il m'est arrivé de recruter des gens, au contraire, qui connaissaient à peine la marque, qui s'était renseignée et du coup qui voyait vraiment la marque pour ce qu'elle était et qui était capable de la faire évoluer aussi. Donc voilà, voilà quelques-uns des énormes malentendus et choses à ne pas faire, c'est ne pas être soi, ne pas avoir travaillé son entretien, ne pas s'être assez renseigné sur la marque. Mais c'est même, pourquoi pas aller en magasin, discuter avec les vendeuses sans s'imposer et sans dire « Oh, je passe un entretien demain », mais voir un peu comment ça se passe, observer, etc.
La curiosité, ouais.
La curiosité c'est faire preuve d'empathie pour les gens qui travaillent là, de véritable intérêt, être humble. Et voilà, donc ça, c'est quelques dons vraiment à ne pas faire. Il faut juste être soi-même.
Ok, super. J'entends aussi beaucoup autour de moi en ce moment, avec des amis donc, qui doivent trouver des stages, ou des gens qui cherchent leur césure, leur premier job, qu'ils souhaitent travailler dans des grosses boîtes, parce que, je cite, ça fait bien sur le CV. Donc toi, qui t'y connais quand même plus que moi en recrutement, est-ce que c'est réellement toujours le cas ? Est-ce que c'est quelque chose vraiment que les boîtes et toi, vous allez privilégier ? Ou est-ce que tu préférais quelqu'un qui a essayé de se lancer ou qui a essayé de poursuivre un projet qui lui donnait vraiment à cœur plutôt que d'avoir choisi l'option « bon, il faut quand même que je passe par une grosse boîte ».
Alors, c'est vrai que... je pense que le monde a beaucoup changé. Quand j'étais diplômée de la même école que toi, Louise, il y a quelques années en arrière quand même, à l'époque, il n'y avait pas toutes ces start-up. Mais même les boîtes, le discours des grandes boîtes était très différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de RSE, on parle des valeurs, de la mission d'une boîte. À l'époque, c'était juste « on cherche à vendre hein ». Et du coup, il n'y avait pas trop d'alternatives, en fait. Quand tu sortais d'école, tu allais forcément vers des grosses boîtes, même si tu n'étais pas vraiment convaincue, mais tu disais, je vais faire mes classes quelques années, 3-4 ans, dans cette boîte, puis après, bon, ben, j'irai éventuellement ailleurs, et éventuellement, un jour, peut-être, je finirai par tomber sur la bonne boîte et le bon job. En commençant, c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs. En commençant à bosser pour ces grandes boîtes, je me suis vite rendu compte que bah déjà le bonheur, c'est ici et maintenant. Se galérer pendant des années avec un job qu'on déteste, c'est vraiment dur à tenir sur la distance, mais même sur un mois, même sur 6 mois, quand on se lève le matin en se disant tous les matins « mais pourquoi je fais ça ?» on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de s'habiller, on sort de chez soi, ça m'est arrivé de vomir dans le caniveau. Tellement j'étais malade d'aller en réunion qui serait une question pour un champion, où on essaye de dire « mais c'est toi le coupable, qu'est-ce que tu as fait ?» etc. C'est pas possible en fait. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeune génération, elle est un peu plus impatiente. Elle a envie de s'éclater, elle a envie de s'épanouir plus vite, peut-être moins de patience, et c'est bien. Parce qu'en fait, vous permettez aux grosses entreprises de se poser les bonnes questions. Et moi, j'en discute parce que j'ai énormément d'amis RH aussi, à mon niveau et à mon âge avancé. Et en fait, on se dit la même chose, c'est que cette nouvelle génération, elle bouscule les codes et elle force les boîtes à se poser les bonnes questions. Les grosses boîtes ne font plus autant rêver qu'avant. Donc, elles se posent des questions sur comment est-ce que je peux attirer les petits jeunes qui ont tous envie de monter leur boîte ou d'aller bosser pour des startups. Parce qu'ils savent que un stage photocopie dans une grande boîte où vous êtes dans le bureau près des toilettes, c'était mon premier stage. Bon, je ne faisais pas des photocopies, mais presque. Et j'étais reléguée près des toilettes.
C'est pas comme ça qu'on va dénicher les talents.
Voilà. Quoi. Voilà. Et aujourd'hui, les jeunes, justement, ils vous posent des questions. Mais qu'est-ce que je vais apprendre, etc. Là, moi, j'ai une stagiaire qui a commencé. Alors, j'en ai eu plusieurs, mais en ce moment, j'en ai une qui a commencé il y a un mois. Son stage, elle avait la philo avant, en Écosse, à l'Université d'Édimbourg. Donc, c'est son premier stage et en même temps, elle vient de finir ses études. Ben, je la trouve absolument géniale. Et c'est une super stagiaire parce qu'elle a la soif d'apprendre. Elle a l'humilité pour dire, ben là, je ne sais pas. Et elle me dit, parfois, tu me donnes des briefs, je me dis, oh, mon Dieu, mais j'en suis pas capable, etc. Elle me le dit pas, heureusement. Elle a le droit de me poser toutes les questions qu'elle veut. Et j'ai la patience pour les écouter et la guider. Mais elle est merveilleuse. Parce qu'elle a cette attitude de « yes, we can ». Ça ne veut pas dire qu'elle a une folle confiance en elle. Mais elle a la confiance dans le fait qu'elle va pouvoir acquérir les compétences qu'il faut pour résoudre les problèmes.
Elle a étudié la philo, tu m'as dit ?
Oui, elle a fait des études de philo.
Ça doit être tellement formateur. Parce que ça apprend tellement à réfléchir. Et ça apprend, en tout cas, tout ce que tu dis, l'humilité... La réalisation qu'en fait on est maître de nous-mêmes et que ça ne tient qu'à nous de réussir.
La soif d'apprendre, alors, c'est une des meilleures compétences.
Et ça, elle l'a fait en Écosse, où c'est vrai que le système anglophone fait que tu peux étudier un peu ce que tu veux.
Oui.
Dans tous les cas, tu trouveras un travail après. Alors qu'en France, c'est malheureusement beaucoup moins le cas. Les gens qui sortent d'études de philo, tu vois, c'est encore assez limité, quoi. C'est dommage.
Oui. Ça,
c'est
un truc moi, j'essaye de recruter ça, de trouver ça chez les candidats français. Elle est française, mais elle a toujours vécu à l'étranger. Et en fait, c'est assez compliqué parce qu'ils sont déjà dans des cases. Ils ont accepté la box où on les a mises, en fait. Et moi, les box, ça m'intéresse pas trop. Je me rappelle d'une publicité à Dubaï pour un promoteur immobilier. Et j'ai vécu longtemps à Dubaï et c'était sur l'autoroute, la Shahzayed Road, en allant au travail tous les matins. Et je voyais la pub représenter des box, des boîtes, hein, et disait « We think out of the box, so you don't have to live in one ». On pense à l'extérieur de la boîte, comme ça vous n'avez pas à vivre dans une. Et j'avais trouvé ça brillant comme slogan. Publicitaire. C'était hyper fort. Et en fait, effectivement, elle a étudié la philo, mais elle a cette attitude « yes, I can, je peux tout apprendre, je suis toujours dans ce processus d'apprentissage tout au long de la vie ». Et en fait, pour moi, c'est 10 fois plus précieux que quelqu'un qui va sortir d'une école française, mais qui va être déjà trop dans le système et qui va, à la première difficulté, baisser les bras. Ou me dire « je ne sais pas faire ça » et paniquer, etc. Ça, c'est la pire chose. Donc, voilà. Et en fait, elle hallucine en 3 semaines tout ce qu'elle a déjà fait. Et je lui demande de s'occuper de plein de choses. C'est très transversal comme stage. Médias sociaux, marketing, rédactionnel. Et là, elle commence à m'aider sur le commercial et sur la compta. Elle n'a jamais fait ça. Mais en fait, si on lui explique bien...
C'est ça, on peut tout apprendre. Hein.
Exactement.
De sa propre formation. Mais donc ça, donc tu as une stagiaire maintenant parce que tu travailles depuis quelques années à ton compte.
Oui.
Mais comme tu l'as mentionné, c'est pas ce par quoi tu as commencé. Donc tu as travaillé pour une...
Pour des grandes entreprises.
Donc dont le slogan est un peu plus connu. Et tu as également travaillé pour une seconde boîte à Dubaï.
Très grosse boîte.
Et en fait, tu as décidé un peu de tout recommencer d'une certaine manière.
De prendre les chemins de traverse. J'aime bien dire ça, en fait. Je crois que l'autoroute, comme ça, toute tracée pour tout le monde, où tout le monde s'engouffre, tu sais, l'autoroute des vacances, là, les embouteillages, etc., c'est pas pour moi.
Ouais.
Et en fait, quand tu parles aux gens individuellement, parce que tout le monde a tendance à vouloir la prendre, l'emprunter, quand tu parles aux gens individuellement, tu te rends compte que c'est pour personne. Je pense que le péage à payer, il est un peu trop cher.
Ouais, mais heureusement tu t'en es rendu compte, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déni ou de complaisance.
Bah, faut faire des pauses en fait sur l'autoroute. Hein.
Ouais.
Il y a des aires d'autoroute qui sont faites pour ça. Prendre, pourquoi pas, la petite route de campagne comme ça, sortir de l'autoroute, puis se dire mais en fait je suis mieux là. Peut-être que c'est un peu plus long, c'est un peu plus tortueux. Je vais un peu me perdre en route, mais c'est ma route à moi. Et je suis pas sûre d'où je vais arriver, mais j'ai la confiance que je vais arriver quelque part.
Est-ce que tu peux nous parler du moment toi où t'as trouvé cette route justement?
Ben, moi, je crois que j'ai beaucoup souffert dans ma première expérience professionnelle où j'étais vraiment très, très malheureuse. Je me disais que j'étais un numéro. Ça, c'est la pire chose. Quand tu n'as plus cette impression de compter, que tu sais que tu es interchangeable, tu es un numéro et que t'as plus de pourquoi, en fait. Il y a un très beau TED hein, de Simon Sinek. Je ne sais pas si tu peux mettre des références, ouais, parce que je te les donnerai. Exactement. Le TED de Simon Sinek, S-I-N-E-K, qui est britano-américain, je crois. Il a fait un TED sur les Golden Circles et le « why ».
Ah oui,
pourquoi on fait les choses.
C'est lui qui dit « Start with why », non ?
Exactement. C'est un bouquin merveilleux qui est juste là sur ma table aussi. Que, alors, si vous n'avez pas le temps de lire le livre, c'est toujours mieux de lire le livre. Mais si vous n'avez pas le temps de le lire, regardez son podcast qui doit durer 15 minutes. C'est un TED, donc voilà, qui est merveilleux, qui vous explique qu'en fait, faut toujours se poser la question du pourquoi on fait les choses. Et moi, c'était la pire chose parce que j'avais zéro pourquoi dans mon premier job. Mon deuxième job, je me suis éclatée. Alors, je bossais dans la mode et dans le luxe. Moi, ça me fait pas plus rêver que ça. Hein, c'est, voilà. Mais en tout cas, c'est chouette parce que c'est encore un des rares domaines où on prend le temps de faire les choses. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quand on parle luxe, ça met encore des étoiles dans les yeux de la plupart. Pour moi, le vrai luxe, c'est prendre le temps de faire les choses et de faire les choses bien et le silence. Et je ramène ça à nouveau à mon livre, mais à la conversation. Et je crois que je parlais dans le premier podcast des silences et l'importance des silences. Mais faire silence en soi, prendre du recul et faire bien les choses. Et pour moi, c'est ça le vrai luxe. C'est pas le prix du sac à main ou voilà. C'est prendre le temps de bien faire les choses et le silence. Et en fait, moi, le choc, ça a été de tellement être malheureuse dans mon premier job où j'avais pas de why. J'avais pas de pourquoi, je savais pas trop pourquoi j'étais là. Et la pire chose, c'est sentir que je suis un numéro interchangeable. C'est ça qui m'a poussée à bout en me disant « dégage ». Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes. Vous avez l'impression qu'en France, on vous met dans des cases. Sortez de la case, cassez-vous. Vous êtes jeune, vous n'avez peut-être pas encore un prêt sur le dos ou alors peut-être le prêt de vos études à rembourser. Et Dieu sait que je respecte énormément les gens qui ont fait un prêt pendant leurs études. C'est très courageux. Mais tant que vous n'avez pas encore mari, femme, enfant, prêt, appart à rembourser, etc., cassez-vous les gars. Prenez les chemins de traverse. Sortez du cadre. Même si vous êtes serveuse en Australie, si vous êtes sympa, si vous êtes ouvert, vous allez trouver un job comme ça. Et voilà, et tout est possible en fait. Et si jamais le ciel français, il fait trop chaud, c'est étouffant en ce moment, c'est la canicule, il pleut trop, il fait trop froid, ben allez voir si l'herbe, elle est plus verte ailleurs. Et moi, je valorise énormément les gens comme ça qui sont capables de se dire, hop, je vais aller faire terminer mes études en Écosse, je vais aller prendre un petit boulot. Serveuse, c'est un super job. Moi, je préfère toujours sur les CV plutôt quelqu'un qui a fait les stages parfaits, sponsorisés par papa, maman à l'étranger, le bon stage qu'il fallait à New York et je sais pas quoi, etc. J'ai toujours regardé en me disant, bah tiens, toi, t'as bossé chez Starbucks et t'as fait quoi ? Et c'est les gens-là qui m'intéressent, c'est les gens qui sont débrouillards.
C'est vrai que je pense qu'on a vraiment tendance à sacraliser ou alors vraiment... avoir une image erronée de ce que c'est de se lancer, tu vois. On a tendance à penser que c'est beaucoup plus difficile que ça ne l'est réellement. Et surtout, comme tu dis, dans le pire des cas, retrouver un petit job, c'est pas si terrible que ça. Et au moins, tu vois, on n'aura pas de regrets.
Surtout quand on est jeune, quoi.
C'est vrai.
On peut se permettre.
Je pense que ce qui est aussi difficile, c'est...
Et on peut se permettre à tous les âges. Hein.
Ah, oui,
je précise pour tes auditeurs un peu plus âgés. moi, je me permets encore. Hein. Il faut jouer.
Je pense que c'est aussi... plus difficile quand on est peut-être déjà passé, tu vois, par un échec. Et ce que j'essaie de transmettre un maximum avec le podcast et ma plateforme, c'est que l'objectif, c'est pas de compter le nombre de succès au final, mais vraiment de faire ce qu'on aime. Mmh. Et pour moi, on finira toujours par réussir. Et j'ai vu qu'il y avait un cours que tu donnais à la school qui s'appelle le plan B. Mmh. Si le plan A ne fonctionne pas, il reste 25 lettres de l'alphabet. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui ont peur de l'échec ou qui n'osent plus rebondir après cela ?
Alors, j'ai plusieurs choses à leur dire, en fait. La première, c'est que c'est normal d'avoir peur. On a tous peur. On n'ose pas forcément les avouer, même pas à nos meilleurs amis parfois. Mais quand on se réveille au plein milieu de la nuit, alors en ce moment, c'est la canicule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas. Oui. Mais quand ils écouteront ton podcast, peut-être que ce sera l'automne, il fera meilleur, j'espère en tout cas. Mais quand on se réveille au milieu de la nuit, on a tous nos peurs. Qui viennent nous relancer comme ça. Et c'est normal d'avoir peur. Moi, j'adore Jacques Brel. Il y a une très jolie vidéo qui se trouve sur YouTube de Jacques Brel sur la peur. Et lui, il avait peur. Chaque fois qu'il montait sur scène, il vomissait. Il en était malade. Et pourtant, il continuait à le faire jusqu'à ce qu'un jour, il arrête parce que ça le rendait trop malade. Mais avoir peur, c'est normal. C'est ce qui nous rend humains aussi. Quelqu'un qui n'aurait pas peur, tu imagines ? Il y a des médicaments comme ça, je crois, qui anéantissent la peur. C'est super dangereux. Mmh. Je viens d'entendre l'histoire de quelqu'un qui a eu un accident de surf très, parce qu'elle s'est fracassée complètement sur des rochers, etc. Des médicaments avaient annihilé la peur chez elle. C'est terrible. Je ne connais pas cette personne, mais voilà. Moi, je pense que la peur, c'est bien. Quand on y pense, c'est la peur qui nous a évité de traverser la rue un jour où il y avait un chauffard qui arrivait, de monter dans cette voiture où la personne, elle avait bu. La peur, elle nous sauve la vie une paire de fois. Faut juste, de temps en temps, la laisser un peu en sourdine, en fait. En être conscient, lui, la remercier. Merci beaucoup d'exister. Merci beaucoup d'être là. Et ça, moi, c'est le livre « Comme par magie ». On mettra aussi les références d'Elisabeth Gilbert, la personne qui avait écrit « Eat, Pray, Love, Mange, Prie, Aime », qui est un livre qui est assez intéressant, mais qui ne m'avait pas forcément parlé. Son autre livre, essai « Comme par magie », m'a énormément parlé. En fait, elle dit un truc très vrai sur la peur. Elle dit « La peur, c'est chouette. C'est normal de l'avoir. On est des humains. Il faut juste savoir lui dire de temps en temps « Merci d'être là, mais tu restes sur la banquette arrière. » En aucun cas, elle est copilote et elle te dicte la route. Et encore moins, elle prend le volant. Jamais. Elle n'a même pas le droit de choisir la playlist. Elle est sur la banquette arrière et elle se tait. C'est bien qu'elle soit là. Elle hurlera si jamais il y a un danger qui se présente, mais elle ne prend pas le volant, elle n'est pas copilote et elle ne choisit même pas la playlist. Elle n'a rien à dire. Et moi, ça m'a beaucoup aidée, en fait, de visualiser la peur comme ça. Je pense que... Ensuite, pour revenir aux gens qui ont déjà échoué quelque part. Et moi, je mets dans l'échec... Alors, l'échec, on a tenté quelque chose, ça n'a pas marché. Et du coup, ben, on a échoué. Il y a aussi l'épreuve. Il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont pas forcément... c'est pas de leur faute, mais un divorce, une maladie, un décès, que sais-je, et il y en a, et ça peut nous toucher à tous les âges, nous a anéantis aussi. Un peu comme l'épreuve ou l'échec. Et je les mets un peu dans le même sac. Et en fait, ben souvent, il y a cette phase où on pleure hein, dans le processus de décès, que ce soit le décès d'un projet, d'un job, d'une entreprise ou d'une personne. Il y a cette phase où on pleure. Mais on peut se dire, est-ce que je vais pleurer toute ma vie ou est-ce que j'essaye de me sortir de là? Pour moi, ça s'appelle la résilience. Ça nous donne une force supplémentaire pour se dire, je suis personne, je viens de nulle part. Moi, c'est ce qui s'est passé quand j'étais petite. Je me disais, ok, j'ai pas confiance en moi, mais en fait, si j'ai pas confiance en moi, il y a personne qui aura jamais confiance en moi. Donc, je décide. Est-ce que je décide d'être une grosse loseuse dans mon coin, à chialer, à me dire, j'ai pas eu de bol, j'ai grandi au fin fond de la Lorraine, dans un lycée de ZEP, où les jeunes, ils se bagarrent au couteau dans la cour de récré, et je viens de nulle part? Ou est-ce que je m'enlève les doigts et j'y vais? Et en fait, peut-être que tu vas couper le...
Je laisse.
Et en fait, j'ai décidé de me dire, bah ok, bah moi je vais croire en moi, comme ça, ça va donner confiance aux gens en moi. Si je crois pas en moi, comment tu veux avoir inspiré la confiance dans les autres gens, que ce soit un recruteur, que ce soit même tes amis en fait? Et du coup, bah, j'y suis allée. J'aime bien l'expression qui dit « fake it until you make it ». Tu fake, tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Et c'est même pas ça, c'est « fake it until you become it ». C'est... tu le fake, tu fais semblant, jusqu'à ce que tu le deviennes vraiment. Et en fait, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé avec l'histoire de ma vie. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de ne pas avoir confiance en soi. Et je vous assure que même les gens que vous voyez et que vous admirez le plus, qui ont confiance en eux, vous dites, mais la personne-là, elle est capable de tout. Ben non, en fait. Ils ont les mêmes problèmes que vous et moi. Ils ont certainement d'autres peurs. Il y a des peurs qui nous sont léguées de notre famille. On ne sait pas. En fait, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière cette assurance, etc. Mais on gère, en fait. Et on essaye d'avancer quand même. Et il y a des contextes plus ou moins graves. J'ai une amie géniale qui s'appelle Sandra Rinflet. C'est une de mes profs pour la school. Elle fait un projet fantastique en ce moment où elle va rencontrer des artistes dans des pays compliqués comme l'Iran, la Mauritanie, etc. Et elle les interview. C'est sur les artistes contraints. Et comment, dans des contextes vraiment pas faciles, ils arrivent à exprimer ce qu'ils ont à exprimer. Et moi, je pense, et je le dis à tous les auditeurs, mais j'en suis convaincue, ce que vous avez à dire au monde, c'est important, c'est essentiel, c'est vous. Et si vous vous taisez, c'est presque un crime contre l'humanité. Donc allez-y, propagez votre message, faites le travail, do the work. C'est pas non plus allez-y, fake it. Non. Il faut travailler, il y a énormément de travail derrière. Vous restez humble aussi par-dessus tout, mais faites le job, allez-y, et puis allez répandre votre message au monde, quoi. Parce que si vous le faites pas, il n'y a personne qui va le faire pour vous, hein. Il n'y a pas le destin qui va venir frapper à votre porte, toc, 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 c'est le destin, viens, je t'emmène. Non, 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 il y a un travail énorme à faire, et après, petit à petit, dans la confiance en soi, il y a un truc clé pour moi, c'est la théorie des petits pas. Vous faites un petit pas en avant, vous savez pas trop où vous allez, etc. Vous voyez que le monde, il s'effondre pas sur votre tête, vous validez. C'est bon, je fais un autre pas, j'avance. Mmh. Parfois, c'est un pas en avant, un pas en arrière, un peu comme le tcha-tcha. Un pas de côté, un pas de l'autre côté. C'est pas grave, on titube, on marche un peu, on fait du surplace, etc. L'important, c'est de rester en mouvement. Donc, quand il y a un échec, quand il y a une épreuve comme ça, ben, keep moving, restez en mouvement, en fait. Un pas en avant, un pas de côté, un pas de l'autre côté. La théorie des petits pas. Et vous y allez petit à petit. Et c'est OK de faire demi-tour, c'est OK de faire marche arrière, c'est OK de faire un pas de côté de temps en temps, de s'arrêter, mais pas trop. Continuez, restez en mouvement. La théorie des petits pas, c'est magique. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'étirer votre zone de confiance. Moi, je dis toujours que la zone de confiance, c'est un espèce de blougi-boulga. Dedans, il y a ce que vous savez faire. Je sais cuisiner. Toi, Louise, tu es une merveilleuse cuisinière. Tu sais faire du sport. Tu sais parler en public, j'imagine. J'imagine
que tu fais, mais je travaille dessus.
Tu fais beaucoup d'exposés. Tu sais gérer les médias sociaux. Tu sais monter un projet et faire en sorte que les gens ils te suivent. Ça, c'est une super compétence. Il y a plein de choses dans ta zone de confiance. Mais je suis sûre qu'à l'extérieur, il y a des trucs... Est-ce que tu sais jardiner?
Non.
Voilà. Est-ce que tu sais... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donne-moi un ou deux exemples, Louise. Je prends Louise en exemple.
Contre moi.
Pas du tout.
Non, je sais. Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Ben, moi, c'est vrai que j'ai toujours déploré le fait de ne pas avoir plus de compétences pratiques. Tu vois, je ne sais pas coudre.
Faire des trucs de tes mains, quoi.
Ouais, faire des trucs de mes mains, tu vois. Ou même, même artistique, tu vois. La poterie, le dessin, le piano. Et tu vois, j'ai tellement été... on m'a tellement répété quand j'étais petite... que c'était limite l'ordre des choses. Enfin, tu vois, en ayant...
Faut le truc académique à la française.
Ouais, et surtout très manichéen, c'est-à-dire que si jamais j'étais pas bonne en dessin, c'est parce que j'étais pas bonne en dessin. Et tu vois, c'est avec le temps et mes lectures surtout que je me suis rendu compte que c'était totalement faux et qu'en fait, il n'y a pas d'ordre des choses, tu vois, qu'on ne naît pas intelligent, qu'on ne naît pas doué dans quelque chose. Et du coup, maintenant, je suis firm believer dans le pouvoir. Enfin, tu vois, on peut réaliser ce qu'on veut.
Exactement.
Mais après, tu vois, moi, pour la zone de confiance, je suis pour l'élargir quand vraiment c'est une volonté.
Bien sûr.
Pas pour se forcer.
Non.
Il y a beaucoup de gens qui disent, tu vois, c'est un discours qu'on entend beaucoup, faites-vous peur chaque mois, faites un truc que vous n'aimez pas et tout. Et moi, je ne suis pas particulièrement pour, tu vois.
Moi, j'en reviens à la théorie des petits pas. C'est faut pas non plus se jeter dans le vide. Hein,
voilà, c'est pas faire trop.
Quand la piscine, elle est vide, il ne faut pas plonger, quoi. Ouais. Et puis, en plus, tu sais quoi, il y a... je suis sûre que tu l'as vu passer et que peut-être certains auditeurs l'auront vu passer. Sur les médias sociaux, il y a ce truc où tu vois votre zone de confort, your comfort zone. Et là, tu as une étoile qui dit « Where the magic happens
ouais, ».
Je trouve que ça... c'est dangereux, c'est ouais. N'importe quoi. Moi, j'y crois pas du tout. Je crois qu'en fait, autour de ta petite zone de confiance, là, tu prends des petits pas. Si tu te mets en dessous de la montagne et que tu regardes le sommet, tu vas être terrifié.
Ouais.
Et ça va te terrifier tellement que tu vas peut-être pas du tout avancer. Moi, je crois que faut garder le sommet en tête, hein, mais il faut aussi le perdre un peu de vue en se disant, ok, je commence par quoi? Le petit caillou, le petit sentier, bon, il y a des ronces, j'essaye d'avancer doucement. C'est faire des petits pas. Ouais. Ne fais pas un truc qui te terrifie, mais essaye quand même de ta zone de confiance. Mais en fait, la paroi, elle est hyper élastique. Il faut la travailler sans cesse en faisant des tout petites choses. C'est pour ça la théorie des petits pas. C'est demain, tu vas pas monter un jardin bio, une ferme de permaculture.
Ouais.
Mais c'est tiens, bah, je vais lire un petit peu. Je vais planter, je vais acheter une plante et puis je vais essayer qu'elle meure pas dans le mois qui suit, quoi. Et c'est essayer des choses. Donc ça, c'est un gros truc dans la confiance en soi, c'est la théorie des petits pas.
Ça me fait penser, vu que tu parles de dessin un peu comme ça et de mantra, à l'ikigai japonais. T'as déjà vu
l'ikigai.
L'ikigai, ça se prononce. Et je crois que c'est, ta passion, ce en quoi tu es bon, et ce pourquoi les gens te veulent, c'est pourquoi les gens te rémunéraient. Et ça forme un peu le spot un peu central... sur comment trouver sa voie, parce que c'est vrai que beaucoup de gens parfois tu vois ne savent pas par où commencer et je crois qu'on en parlait un peu dans le premier podcast comment faire quand on ne sait même pas par où commencer et tu avais très justement dit ben faites
Ouais.
Et en fait, c'est comme ça qu'on...
You'll find out. Ouais, c'est faites, avancez, faites des petits pas à gauche, à droite, etc. Et c'est là, en fait, parce que peut-être que le job de vos rêves, une fois que vous y serez arrivé, vous allez vous rendre compte que c'était pas du tout le job de vos rêves.
C'était l'autoroute,
toute tracée, peut-être qu'au bout, il y a un gros mur, en fait, et que vous allez vous le manger. Et donc, du coup, c'est important de faire des pauses, de regarder un peu ce qui se passe et faire. Et en fait, c'est ce qui nous permet d'avancer. Tu sais ce que tu me disais sur, par exemple, je suis pas bonne en dessin, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Et en fait, c'est terrible. Et tu le dis toi-même.
C'est
mettre des étiquettes, en fait. Faire, moi, je suis nulle en dessin. Moi, je sais pas chanter. Ouais. Qui d'entre vous chante sous sa douche? Peut-être que vous chantez faux, vous n'avez pas une belle voix, etc. Mais au moins, vous chantez. Et en fait, effectivement, le système universitaire français, c'est un peu « passe ton bac d'abord ». Alors que, en fait, là, je ne comptais pas l'évoquer, mais je vous donne un super tuyau. Il y a une psychologue américaine qui est absolument géniale. Elle est prof à, je ne sais plus si c'est Stanford ou Harvard, je suis désolée. Elle s'appelle Carol Dweck.
Ah, mais oui,
Mindset. D-W-E-C-K. Voilà. Et en fait, elle a identifié le mindset, le growth mindset, c'est le mindset de développement, d'expansion, et le fixed mindset. Et dans le fixed mindset, la pire chose, c'est de se mettre des étiquettes en disant « je suis nulle ». En plus, on a tendance à dire « je suis nulle en ça, donc je suis nulle en tout ». Mais c'est mettre une étiquette en disant « je suis pas bonne en dessin », c'est la meilleure manière de jamais progresser, en fait. Alors que se dire « à force de travail, elle valorise le travail », et en plus, elle a 5 principes pour justement changer de mindset. On peut être dans le mindset d'expansion, par exemple, au travail, mais on peut être dans le mindset fixe, en amour d'ailleurs. Et dans son TED, si vous n'avez pas le temps de lire son livre, qui doit être aussi quelque part chez moi là, qui s'appelle « Changer d'état d'esprit », si vous n'avez pas le temps de lire le livre, regardez son TED, on mettra les liens, ouais. Et Louise t'en a déjà parlé. C'est vraiment comment est-ce que je peux me mettre dans cette dynamique de « je peux tout apprendre ». D'ailleurs, pour revenir à l'entretien d'embauche, moi, c'est vraiment une des compétences premières que je recherche chez quelqu'un. C'est pas grave si tu sais pas faire, mais est-ce que tu es capable d'apprendre? Et est-ce que tu as ce mindset, cet état d'esprit de développement, d'expansion, et tu veux apprendre?
Ouais, non, mais t'as raison, c'est quelque chose que j'encourage beaucoup avec le podcast. Et je pense que le contraire, un peu, ou l'ennemi de ça, c'est la procrastination. Et malheureusement, c'est un mal qui touche beaucoup d'entre nous, notamment les jeunes. Je voulais savoir si tu avais peut-être un remède contre ça.
Alors, plusieurs, parce que moi-même, j'en suis victime, hein, ouais. Encore. Ouais. Et je pense qu'on est tous victimes de ça. La première chose, c'est se dire, pourquoi est-ce que je procrastine sur ce truc? J'ai pas envie de le faire. Alors, pourquoi? Il y a un truc sympa qui est l'idée des 5 pourquoi. C'est une méthode de productivité japonaise qui a été mise en place par le patron de Toyota dans les années 70 sur sa chaîne de prod, en se disant la machine, elle est tombée en panne. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas été entretenue. Pourquoi elle n'a pas été entretenue? Parce que pourquoi? Et en fait, en posant les 5 fois pourquoi à n'importe quel problème que vous posez dans votre vie, pro ou perso, pensez à un souci, à un problème que vous avez, vous posez 5 fois la question pourquoi, parfois dès le 3e hein, d'ailleurs, vous allez arriver à la cause essentielle. Donc quand on procrastine, c'est se dire pourquoi. Ensuite, il y a un outil que je vous avais légué, transmis pendant mon cours, si tu te rappelles, Louise, à Sciences Po, quand on s'était rencontrés, c'était l'urgent et l'important.
Oui,
c'est la matrice Eisenhower. C'est se dire, vous faites un carré et vous le séparez en 4 cases. La première, c'est qu'est-ce qui est urgent? Urgent, pas urgent. Qu'est-ce qui est important, pas important? Ce qui est urgent et important, il faut le faire en priorité, il faut le faire soi-même. Ce qui est urgent et ce qui n'est pas vraiment important, est-ce qu'on ne pourrait pas le déléguer? Ce qui est ni urgent ni important, laisse tomber. T'oublies. Et donc, du coup, en fait, et ce qui est important, alors non, je me perds un peu, mais l'autre, en gros, il faut le planifier.
Ouais.
Et voilà. Et en fait, il faut se dire, pourquoi est-ce que je procrastine? Est-ce que je dois vraiment faire ce truc? Ou alors, je vais le faire, mais pour ne plus être dans cette situation, est-ce que je ne pourrais pas le déléguer à mon assistante, à je ne sais quoi? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut encore le faire? Est-ce que la manière de le faire n'est pas un peu dépassée? Est-ce que je pourrais pas innover pour m'éclater la prochaine fois?
Ouais.
Ensuite, c'est, si ça marche pas, hein, et qu'il faut le faire quand même, c'est s'accorder, c'est le disséquer en petites tâches. Donc comme ça, ça paraîtra moins insurmontable. Ensuite, c'est se dire que nous, notre capacité de concentration, c'est pas plus de un quart d'heure. Bah, dans ce cas, tu te mets un timing. Tous les un quart d'heure, tu vas faire une petite pause de 2 minutes. Hein. Ou alors, idéalement, toutes les demi-heures, tu fais une petite pause de 5 minutes. Hein. C'est s'accorder aussi en se disant, tiens, si ce soir, j'arrive à finir ce truc, bah, je m'offre, je ne sais pas quoi, je vais m'offrir un cocktail dans mon bar à cocktail préféré. Je vais appeler ma meilleure amie et voilà. Et en fait, aussi, il y a un autre truc, c'est la visualisation. Se dire, je me sentirai tellement mieux quand ce sera fini que là, j'ai pas d'énergie. Quand j'y pense, ça m'embête vraiment. Comment je me sentirais si demain matin, je me réveille et je dois encore le faire parce que j'ai procrastiné, j'ai galéré toute la journée. Ça, c'est pas mal pour aider. Hein. Mmh. Et puis ensuite, la dernière chose, c'est se dire, parfois, on a des... on appelle ça en anglais le writer's block, le bloc de l'écrivain, le blocage de l'écrivain. C'est se dire, ok, la page blanche. Bah, dans ce cas, va faire un tour. Accepte que là, tu vas pas avancer davantage. Va faire un tour, va au musée, vois une amie. Délimite-toi le temps aussi. Hein. Faut pas que ça dégénère non plus trop. Mais se dire, ok, bah, là, je vais pas avancer, ça va pas être constructif. Donc, j'essaie de faire autre chose en attendant.
C'est vrai que tu as dit des choses dont je me suis rendu compte et qui marchent vraiment pour moi, et je pense qu'il faut trouver ce qui marche pour soi en fait. Et moi, c'est vraiment cette histoire de j'ai vraiment une capacité de concentration optimale de maximum 2 heures. Et c'est pour ça que j'ai jamais été capable de travailler 4 heures ou 8 heures de suite. Donc toutes les 2 heures, je vais faire une vraie pause en faisant autre chose, que ce soit du sport, que ce soit
le sport, c'est génial.
Le sport, c'est le meilleur. À part quand c'est trop intense, et là, tu reviens, en fait, t'es claqué. Ouais. Mais du coup, si tu le fais à midi, tu vois, ça va. Mais c'est vrai que voilà, parfois, ne pas forcer, comme tu dis, ça sert à rien de laisser traîner le truc du 8 heures si vous voyez que vous êtes plus efficace, quoi. C'est vrai que c'est pas productif. Ouais.
Et encore une fois, rassurez-vous, hein, on est tous sensibles et on est tous victimes de la procrastination. Même moi, tout le monde. Et c'est juste apprendre à s'en faire un allié,
voilà,
en fait.
La dompter comme la peur.
En se disant, bah tiens, pourquoi en fait je procrastine sur ce truc? Est-ce que je suis vraiment censée le faire? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le faire? Est-ce que comment je pourrais faire pour ne pas le faire la prochaine fois, justement, pour éviter cette situation?
Je sais que ta citation préférée, c'est celle de René Char. Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Je voulais te demander ce que ça signifiait pour toi, imposer sa chance.
Imposer sa chance. J'ai remarqué il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec un ami américain qui est bilingue, français-anglais. J'ai remarqué qu'en français, on dit prendre des risques. En anglais, on dit take a chance.
Très révélateur.
Oui. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses, en fait. En anglais, on prend sa chance. En France, on prend des risques. Ça veut beaucoup dire sur notre culture, c'est en vrai. Fait. Impose ta chance, c'est se dire que... si on est là au moment-là, ben, c'est peut-être pas par hasard. On a certainement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qu'on a à dire, c'est important, c'est essentiel, c'est nécessaire. C'est vital de le communiquer, de le faire savoir, de le transmettre. Ça donne aussi beaucoup de sens, certainement. Évidemment, faire le travail en amont, et ça, je le répète. En ce moment, je vois beaucoup de gens qui espèrent des trucs et être connus, cartonner, etc. Mais ils ne sont pas capables de faire le travail avant. Ils n'ont pas l'humilité pour se dire « Est-ce que j'ai assez travaillé ma copie derrière ?» Ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Ce sont des imposteurs. Ça se sait, ça se voit. Ça marche, ou alors ça marchera pour eux, mais pas assez longtemps. Mais imposer sa chance et se dire « Ok, moi je suis là sur cette terre, je suis là dans ce truc, c'est pour une raison. Et en fait, je vais éviter d'être le petit esclave soumis, le petit mouton qui va au travail le matin, qui dit oui à tout, etc. Mais je vais justement me dire « Tiens, qu'est-ce que je peux faire différemment? Qu'est-ce que je peux amener ma petite pierre à l'édifice, au schmilblick » qui est la conversation globale.
Et si jamais tu pouvais donner un petit devoir de vacances ou plutôt de rentrée à nos auditeurs pour qu'ils soient plus épanouis, peut-être qu'ils se trouvent plus, qu'ils trouvent plus leur voie, qu'est-ce que tu leur donnerais à faire?
Bonne question. Alors déjà là, si c'est les vacances, j'espère que vous êtes en train de vous détendre. Je sais pas quand est-ce qu'il sera diffusé ce podcast.
À la rentrée, donc c'est pour ça. Que, tu vois, c'est plutôt peut-être pour redémarrer du bon pied.
D'accord.
Et peut-être jamais on a passé une année où on a trop douté ou on n'a pas avancé. Comment est-ce que là on peut aborder l'année, tu vois, plus sereinement?
D'accord. Ce que j'allais dire pour les vacances, moi mon antidote préféré c'est la lecture.
Ouais.
Et je trouve que les vertus de la lecture. Et j'entends de plus en plus. C'est peut-être moi qui vieillis, mais j'entends de plus en plus de gens. Et puis moi j'ai fait des études de lettres, donc bon. Mais j'entends beaucoup de gens qui me disent, moi j'aime pas lire. j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à rester sur un bouquin. Bah, t'as peut-être juste pas rencontré l'auteur. T'as pas rencontré. Je pense que la littérature, c'est vraiment une rencontre. Et t'as peut-être pas trouvé les bouquins qui te plaisent. Moi, je suis capable. Ce week-end, j'étais en retraite yoga pendant 3-4 jours à la campagne. J'ai lu 8 livres en 3 jours. Et j'ai lu, mais de tout, en fait. Et moi qui lis beaucoup de bouquins de management, de développement personnel, de psychologie et de philo, j'en avais pris un ou deux avec, je les ai même pas lus, parce que je me suis dit, arrête de te retourner la tête, là, il y a un moment, il faut arrêter. Et j'ai juste pris mon pied. J'ai pris du plaisir à relire des romans. J'ai lu un roman anglais délicieux qui m'a fait rire aux éclats, Sous parasol. J'ai lu des trucs complètement différents. Le Requiem pour Yves Saint-Laurent de Laurence Bénaïm. Voilà, des choses complètement différentes, mais qui me faisaient plaisir. Renouer avec la notion de plaisir, c'est hyper important. Et c'est pareil, c'est pas assez valorisé, en fait. On a des petites joies comme ça, mais le plaisir de faire quelque chose, d'être, c'est le flow, d'être complètement absorbé dans sa lecture, etc. Retrouver le flow, que ce soit avec du sport, avec de la lecture, l'écoute d'un podcast ou autre, c'est retrouver le flow. Maintenant, pour la rentrée, moi, ce que je recommande, mais de tout cœur aux gens, c'est se mettre en mouvement, faire des petits pas. On en parlait tout à l'heure. C'est... je sais pas, s'inscrire. Moi, par exemple, l'année dernière, je me suis inscrite aux Arts Déco. Parce qu'effectivement, j'ai toujours aimé dessiner, mais je me suis toujours dit, bah, j'ai pas fait les Beaux-Arts, donc je sais pas dessiner. Bah, je me suis inscrite aux Arts Déco. Et pendant un an, tous les mardis soirs, j'allais prendre 2h15 de cours aux Arts Déco. Et j'ai fait la démarche de m'inscrire à ce cours. Et c'était pas facile à caler dans mon emploi du temps, parce que Dieu sait qu'on a toujours des trucs, des bonnes raisons de pas y aller. Mais je l'ai fait pendant un an. De la peinture, du dessin, du fusain, de l'aquarelle, de l'acrylique, etc. Là, cette année, je veux m'inscrire à la danse pour renouer avec le plaisir. Je ne sais pas encore quelle danse, donc j'ai pris le programme de Elephant Panam à Paris, qui propose plein de cours de danse. C'est absolument génial et l'équipe est adorable. Du coup, on m'a conseillé quelques cours de modern jazz, de danser comme Beyoncé, de bar shape, etc. Je vais en tester plein. Je vais en tester plein. Et puis, je verrai celui que je vais suivre. On se croisera peut-être là-bas. Qui sait ?
Allez,
on va voir. Mais c'est, voilà, se mettre en mouvement, faire des petits pas. Et puis surtout, si votre truc, il ne vous plaît pas, bah, changez, quoi. Arrêtez de râler. Alors, on arrête de râler. Moi, les gens qui me disent à la terrasse d'un café comme ça, « Ouais, non, mais de toute façon, moi, je veux changer le monde, j'ai un projet, je vais changer de job. Bah, » 2 ans plus tard, ils y sont toujours parce qu'en fait, il faut payer l'addition. Et le confort, c'est quand même bien confortable. Et j'en vois plein comme ça qui parlent beaucoup. J'ai un de mes profs, Jérôme Frizera, qui dit souvent, « Il y a beaucoup de gens qui parlent le vendredi soir à la terrasse des cafés, mais il y en a peu qui se lèvent le samedi matin. » qui se lève tôt le samedi matin. Mais en fait, c'est ça. Si t'aimes pas ton job, ben, travaille pour en changer. Et je dis pas que c'est simple. Je suis pas en train de te dire que ça va être simple. Mais travaille dessus, en fait. C'est pas tout de se plaindre et d'envoyer des CV à droite à gauche. Peut-être qu'il y a un travail un peu plus profond à faire sur soi-même. Tout à l'heure, on parlait des coachs. Alors, moi, j'aime pas trop, parce qu'en ce moment, c'est un métier à la mode. Donc, il y a un peu tout et n'importe quoi, mais il y en a de très bien. Si un truc plus profond, ben, un psy. Moi, j'étais voir un psy. Il n'y a pas de honte à aller voir un psy. Moi, j'étais voir un psy parce que on vient sur l'échec et l'épreuve. Moi, j'ai perdu mon meilleur ami subitement il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Et je suis allée voir une psy. Et c'est OK, en fait. Enfin, ça ne veut pas dire que je suis zinzin. Et puis, pourquoi pas aller voir une coach ou se faire coacher ou participer à des ateliers. Donc, c'est pour ça qu'on propose des ateliers à la School of Life. Je crois que le 1er en septembre, c'est le 12 septembre, il me semble. C'est moi qui l'anime en plus. C'est comment identifier son potentiel professionnel. On est en plein dedans, là. Et le cours, en 2h30 de cours, on fait un état des lieux incroyable. Il y a plein d'idées pour se dire. À un moment, on fait même une annonce de job à l'envers. C'est toi qui passes l'annonce. C'est pas on répond gentiment à une annonce d'un recruteur, c'est dire voilà qui je suis et voilà moi ce que je recherche dans un job. Et un entretien d'embauche, pour revenir là-dessus, c'est donnant-donnant en fait. C'est qu'est-ce que toi tu vas apporter, mais qu'est-ce que la boîte elle t'apporte aussi. Ouais. C'est plus prenez-moi, c'est non. Qu'est-ce que moi je vais acquérir comme compétence aussi dans cette boîte? Comment je vais m'épanouir? Est-ce que je vais faire des trucs qui m'éclatent justement pour pas procrastiner, etc. Et comment moi je vais grandir? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça me donne comme raison de vivre? Parce que c'est important quand même le travail, on passe beaucoup de temps là-bas. Et voilà, donc c'est faire des petits pas et se mettre en mouvement, rencontrer des gens, se faire accompagner par une coach, par une psy. Aller faire des ateliers, aller suivre des conférences, questionner les choses, lire, ouais, regarder des TED, regarder, il y a un super YouTube channel de la School of Life avec des vidéos de 3-4 minutes sur des thèmes incroyables sur le travail, il y en a énormément notamment. C'est, voilà, do the work en fait. On se met au travail, on arrête de se plaindre, ça sert à rien. Toutes les heures que vous avez passées à vous plaindre de votre travail, à pleurer, et Dieu sait que ça m'arrivait hein, souvent quand j'étais salariée, ben, en fait, cette énergie-là, c'est de l'énergie négative, mais c'est de l'énergie. Et ben prenez cette énergie et tchouc, comme une pile, là, plus et moins, ben en fait, prenez cette énergie négative, essayez de vous la remettre comme ça en, dans vos abdos et d'y aller. Ça doit te parler, ça. C'est de l'énergie négative, tournez-la en énergie positive. L'énergie que vous dégagez à chialer, à râler, à rouspéter contre votre job, votre situation, etc., ben prenez-la pour justement aller de l'avant, en fait, et faire des petits pas sur le chemin de votre job. Et même si vous ne savez pas ce que c'est votre job, votre entreprise idéale, etc., bah, testez. Voilà, faites des petits pas, boostez-vous, quoi, on se bouge.
J'ai une dernière question pour toi, Fanny, parce que je n'avais pas répondu lors du premier épisode, je ne la posais pas encore. Cela signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie?
Prendre le pouvoir de sa vie? Bonne question. Pour moi, c'est essentiel, nécessaire, mais c'est la base en même temps. On devrait tous avoir le pouvoir sur sa vie. S'il y a une chose au monde sur laquelle on a du pouvoir aujourd'hui, on ne va peut-être pas changer le monde à être Gandhi, même si on le souhaite, pourquoi pas. Mais dans un premier temps, c'est si on n'a pas les rênes de sa propre vie, ça va être compliqué de faire des choses, en fait. Et du coup, c'est... Enfin, pour moi,
c'est juste de les prendre, quoi.
C'est la base, c'est on les a, et c'est pas laisser les autres décider à sa place, ni ses parents, ni ses profs, ni ce que la société veut de nous, mais c'est avoir le discernement et le courage de faire ses choix à soi et se dire mon intuition, elle m'accompagne pas là, je le sens pas, si tu le sens pas, n'y va pas, quoi. Arrête de te forcer à faire des trucs que t'as pas envie de faire. Et du coup, c'est se dire, c'est pas blâmer les autres, c'est pas la faute de ton boss si c'est un con. C'est ta faute, en fait, parce que tu lui laisses le pouvoir de te traiter comme ça. Je suis désolée, je suis un peu violente quand je dis ça, mais c'est, y a personne d'autre qui a le droit. C'est pas ton boyfriend, c'est pas ton prof, c'est pas ton boss qui sont méchants. C'est toi qui leur as donné un moment le pouvoir d'avoir cette influence-là, négative ou quoi, ou d'avoir ce pouvoir-là sur ta vie, en fait. C'est peut-être plus confortable de déléguer ce pouvoir à quelqu'un, mais en fait, c'est nécessaire de reprendre le pouvoir sur sa vie et de reprendre un peu les rênes de la partition qu'on est en train de jouer.
C'est une belle métaphore, ça. Merci beaucoup, Fanny, en tout cas, pour ce deuxième épisode avec toi. Il était génial. Est-ce que tu veux dire un dernier mot à nos auditeurs avant de conclure?
Oui, j'ai ajouté quelque chose. Là, on est en entretien, en conversation, toutes les deux, et avec quelques personnes qui nous écoutent, mais je ne me rends pas compte, parce que je ne les vois pas, hélas. C'est pour ça que j'aime bien parler en public. C'est parce que ça me permet de voir, peut-être que tout le monde n'aura pas l'occasion de s'exprimer, mais au moins voir les visages. Mais en tout cas, oui, j'ai un truc à ajouter, c'est que moi, je ne me vois pas en donneuse de leçons. J'ai horreur de ça. J'aime pas les trucs trop simples, les 1, 2 et 3 à faire. Ça dépend vraiment de qui vous êtes, de votre histoire, de votre passé. Je ne me permettrai pas de vous dire c'est ça qu'il faut faire. Là, je les partage avec toi, Louise, parce qu'on est dans cette conversation profonde et intime. Et j'ai partagé avec beaucoup d'humilité, j'espère, mes trucs à moi qui ont marché pour moi. Il y en a peut-être qui vous ont parlé pendant cette conversation. D'autres, peut-être pas du tout, et c'est pas grave, hein, parce que je suis pas une donneuse de leçons. C'est choisissez les trucs qui vous parlent à vous. Il y en aura peut-être d'autres que vous allez découvrir par vous-même. À travers, on va mettre une liste de lectures, de ressources, etc. Mais ce qui est important, c'est de vous poser les questions, est-ce que ça me parle à moi, et de trouver votre recette à vous. J'aime pas les recettes de cuisine toutes faites. Il faut mettre de la fantaisie, comme dans une recette de cuisine, et je sais que ça te parle. Vous faites votre recette à votre manière. Si vous voulez ajouter de la cannelle, de la poudre de perlimpinpin, ben vous y allez. mais voilà, et l'important, c'est que ça vous goûte à vous, en fait, et que ça vous plaise à vous et que ça marche pour vous.
Merci beaucoup, Fanny, en tout cas, pour cet épisode très inspirant. Donc je sais qu'on peut rediriger les gens sur ton Instagram Sassy Fanny, que j'ajusterai dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaiterais les rediriger peut-être ?
Alors juste mon Instagram, il est à la fois pro et à la fois perso. J'aime beaucoup faire des bêtises, hein, faire les 400 coups avec mes amis. Et je trouve que c'est important aussi de se donner cette permission de se faire plaisir, etc. Pas des grosses bêtises, hein, rassurez-vous. Donc voilà, donc ne vous dites pas elle est dingue cette fille. Non, au contraire, amusez-vous, éclatez-vous. Et il y a mon site internet perso que je suis en train de refaire, mais qui existe déjà, qui s'appelle fannyeg.org ou .fr ou .com. Et vous pouvez m'écrire à hello@fannyeg.com, je crois.
J'ajouterai la aussi. Super, merci beaucoup Fanny.
Merci beaucoup Louise, merci à toutes et à tous.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans cette discussion avec Fanny. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler à des amis que cela pourrait intéresser ou à le partager sur les réseaux sociaux. Cela me fait toujours très plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast et j'essaye de les partager au maximum sur ma story sur mon compte Instagram @mybetterself. On se retrouve dès mardi prochain à 17h pour un tout nouvel épisode d'InPower.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.